Un alcoolique, c'est quelqu'un qui ne cesse pas d'arrêter de boire et ne cesse pas d'en être au dernier verre. Si bien que quand il dit le dernier verre, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Il y a un mot merveilleux pour dire l'avant-dernier, je crois, c'est pénultième. Il ne cherche pas le dernier verre, il cherche le verre pénultième. Et le pénultième, c'est le dernier avant le recommencement le lendemain.
Gilles Deleuze, oui, vous êtes sur France Culture cet après-midi. Gilles Deleuze avait une manière bien à lui d'analyser la relation de l'alcoolique au dernier verre. Vous venez d'entendre un extrait de son abécédaire, lettre B, comme boisson. Bonjour Maxime Muscat.
Bonjour Matteneau.
Pas commencé. Maxime Muscat, vous êtes comédien, vidéaste, créateur de contenu. On vous a vu il y a quelques années dans le petit journal de Yann Barthès, je le précise parce que c'est important. Dans votre parcours, on va y revenir. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour votre livre « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser » qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Un livre qui parle de votre alcoolisme, donc de votre sevrage aussi. Vous, votre Dry January dure depuis 2021. Mais c'est surtout un livre qui parle de notre rapport à tous à l'alcool. Est-ce que ce qu'on réalise quand on arrête de boire, c'est à quel point c'est normalisé en France de boire ? C'est-à-dire ne pas boire, c'est s'écarter de la norme française.
Alors moi, il y a eu une réaction qui m'a surprise quand j'ai commencé à parler de ça, parce qu'au début, avant de faire un livre, j'ai fait une vidéo. Et la réaction qui m'a le plus étonné, à laquelle je ne m'attendais pas, c'est les gens qui ne boivent pas d'alcool, qui m'ont dit « Putain, mais merci de normaliser le fait de ne pas boire d'alcool, parce qu'on se prend des remarques dans tous les sens dès qu'on demande autre chose que de l'alcool en soirée. Maintenant que je suis dans ce monde-là, maintenant que je suis passé de l'autre côté, je m'aperçois de tout ce qui est pression sociale, etc. C'est une nouveauté de ma vie que je n'avais pas perçue à l'époque.
Aider celui qui cherche à arrêter de boire plutôt que lui faire remarquer que c'est pas fun, une Léa Salamé, comme on dit dans le Petit Larousse 2025. Il y a encore pas mal de boulot au pays du Beaujo, mais Maxime Muscat nous montre le chemin. Et comme cette année, même Manon Mariani, dite la Marianoche, figure quasi tutélaire des débits de boissons de l'Est parisien. On sait qu'elle allait faire le Dry January.
Bravo.
Vraiment, c'est que quelque chose est en train de se passer. Zoom Zoom Zen, c'est parti. Alcool, la fête est plus folle, disait la pub Mister Cocktail dans les années 90, un slogan qui n'avait jamais convaincu notre réalisatrice Alicia Vullo, jusqu'à cette chute du 19 décembre dernier à la sortie du Carmen. Le Carmen, au lieu de la nuit parisienne, où Alicia réalisa trop tard qu'effectivement, si elle avait bu des Tourtel Twist, elle n'aurait pas fini le pied dans le plâtre dans une chambre partagée de l'hôpital Bichat. Le plus triste dans cette histoire étant le comportement honteux et lâche de ceux qui l'accompagnaient à ce moment-là, à savoir notamment Manon Mariani et Quentin Lui, qui pourraient être poursuivis pour non-assistance à ivrogne en danger, et qui se sont tout simplement éclipsés en mode baie de bail, alors qu'Alicia gisait à même le trottoir.
À sa décharge,
Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint, également présent sur les lieux du drame. Lui, rien à se reprocher, sachant qu'il venait lui-même de tomber dans l'escalier en repensant aux avances de la serveuse qu'il n'avait peut-être pas aussi vigoureusement repoussée que l'abbé Chibrard, son confesseur, l'aurait voulu. Bref, Alicia, toi qui nous écoutes, le pied dans le plâtre, cette émission sur le Dry January est à la fois un hommage et, on l'espère, une leçon.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Alors Maxime Muscat, vous allez nous dire comment vous avez réussi, vous, à dire non dans une société qui globalement dit oui à l'alcool. Juste le temps de vous présenter ma petite équipe, à commencer par celle pour qui le mois de janvier s'annonce très long et déjà l'armure de sa résolution se fendille, puisqu'elle nous disait tout à l'heure dans l'open space « Non mais le Dry January, je le fais, mais je me laisse quand même la possibilité de… » Devant notre regard désapprobateur, elle n'a pas terminé la phrase, mais
j'ai
vous voyez ce que ça veut dire.
C'est pour ça, d'accord.
Justement, entraîne-toi.
C'est parfait.
Sortie de zone de confort, Manon. Ouais. Bravo.
Manon, chaque après-midi, j'ai vous peur. Auscultez pour nous les réseaux sociaux dans votre célèbre veille sanitaire.
L'actrice Blake Lively, connue pour son rôle dans Gossip Girl, a porté plainte contre le réalisateur et acteur Justin Baldoni, avec qui elle a tourné le film It Ends With Us. Elle l'accuse, entre autres, d'avoir orchestré une campagne contre elle, sur les réseaux sociaux, un système qui a aussi été utilisé contre d'autres actrices. Je vous explique son fonctionnement dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Maxime, comment voit-on le Dry January depuis les régions viticoles françaises ? Il a la réponse, car chaque matin, en plus de son micro-trottoir, il prend le temps de lire toute la presse quotidienne régionale. C'est Quentin Lui.
Et j'adore ça. Un bon café, la livraison quotidienne de mes 349 journaux à domicile. Oui. Alors une logistique certes contraignante, encombrante, mais pour un résultat en direct aux alentours de 17h30. Aujourd'hui, direction l'Est de la France. Le Dry January, donc au pays du champagne.
Elle aussi, quelle joie de la retrouver, surtout que le temps des vacances allait passer d'humoriste à influenceuse literie. Ivre de followers, elle a croqué à la drogue de l'influence, et la voilà qui nous propose dans ses dernières stories des liens vers des magasins de literie en mode « Oh, mon nouveau sommier est vraiment super! Quel maintien! Quelle ergonomie! Et moins 20% avec le code promo de Breuer. Bonjour Marie!
Bonjour,
quelle
bonjour!
Invité. Quelle honte!
Vraiment, quelle honte, je faisais ça avant de vous rencontrer.
C'est vrai. Mais elle a tout
mettez
compris.
Sur le
c'est un des endroits les plus importants du monde d'avoir un bon lit et tout. Elle le chope gratos, mais laissez-la tranquille.
Lui aussi, il est corrompu.
Elle est tellement au-dessus de vous.
Ils sont jaloux, ils sont jaloux.
Meilleur placement produit. Non mais lol.
Bon, mon sujet du jour, les petits bébés nés depuis le 1er janvier 2025 font partie de la génération bêta. Et non, ça ne veut pas dire qu'ils vont être complètement neuneux. Oui, j'ai fait le jeu de mots bêta dans le teaser, parce que la blague ne méritait pas dans ma chronique.
Ah, vous m'avez rassuré d'un coup. Enfin, il nous revient des Caraïbes scintillants de lumière. Le poil soyeux et le teint hâlé. Son bilan carbone, il s'en fout, il a kiffé. Nous disait-il ce matin en évoquant surtout les avantages du Kids Club, où il a pu refourguer ses deux gosses de 8h à 19h chaque jour, si bien qu'à la fin, ils appelaient le Géo papa.
Je remercie toutes les équipes. Hein,
évidemment, Cyril Laclaire.
Du Baby Club.
Cyril, chaque après-midi, vous nous proposez les trois infos qu'il ne fallait pas rater au programme de ce premier Lacar News de 2025.
Le demi-siècle de TF1, le pape François contre Donald Trump, un combat qui est lancé et un dilemme diététique et capillaire.
Capillaire, ça m'intéresse. Le Lacar News, ce sera juste avant la demi, mais d'ici là, on va se plonger dans le livre de notre invité, Maxime Muscat. « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser » vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Et c'est pas du tout chiant, quelqu'un qui ne boit pas. Vous nous parlez du côté joyeux de la sobriété, qui est rarement mis en avant.
Il est rarement mis en avant. Eh bien, maintenant, oui. En fait, quand j'ai compris que... Enfin, j'avais des problèmes, par exemple. J'adore faire la fête. Et le jour où j'ai réussi à m'amuser sans avoir besoin d'être désinhibé en buvant de l'alcool, je me suis dit, waouh, génial, j'ai débloqué le truc. Et c'est bon, ma vie, j'ai gagné. Là, jusqu'à mes 80 ans, je vais pouvoir m'amuser, faire la fête, quoi.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça se fait pas en un jour. C'est pas un déclic qu'on a du jour au lendemain. On réalise qu'on fait la fête sans alcool.
Ah non, absolument pas. Et c'est pour ça que dans le livre, je raconte tout. Toutes les étapes qui sont arrivées jusqu'au moment où je fais le bon dry, parce que moi, ce qui m'a permis de passer de l'autre côté, c'est de faire un an sans alcool pour pouvoir réapprendre à faire tous les trucs que je faisais avant, notamment aller à un anniversaire, fêter nouvel an, faire tous les festivals de l'été, et c'était un test d'un an où j'ai appris, où je me suis dit, allez, je vais travailler sur moi-même pour apprendre à vivre sans alcool et m'amuser. Mais avant, j'ai fait plein de dry avant, où je faisais un mois et après je reprenais en mode all-in, etc. Et donc ça a été un long processus que j'explique dans mon livre. Et j'ai aussi fait plusieurs, enfin j'ai eu des coups durs dans la vie, un burn-out, une dépression, une rupture amoureuse compliquée, qui ont fait que l'alcool, je m'en suis servi un peu autrement, et donc ouais, ça a été, il y a eu des moments où c'était impossible pour moi d'arrêter l'alcool, parce que ça me permettait de retrouver un peu des moments de joie, mais quand j'ai senti que j'allais mieux, c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, là, il va falloir apprendre à vivre sans alcool, parce que j'avais capté que j'étais addict et que toute ma vie, j'allais devoir gérer ces problèmes d'addiction, quoi.
Et justement, à quel moment vous vous rendez compte que vous êtes addict ? À quel moment vous mettez le mot alcoolique ?
Le mot alcoolique, moi, j'essaie de pas l'employer. Enfin, c'est compliqué ce mot-là, parce que moi, dans mon discours, j'essaie de pas en parler, parce que les gens, ils le comprennent pas de la même façon. Moi, je préfère parler de problèmes d'alcool et de les lister pour que les gens puissent plus s'identifier. Par exemple, quand je m'ennuie, par exemple, quand je vais pas bien, je bois pour oublier mes soucis, pour me désinhiber, pour être plus en confiance en moi, avant d'aller à un date, etc. Donc, c'est plein de trucs. Je me dis, en fait, pourquoi je me sers de l'alcool pour avoir confiance en moi? Il faudrait que j'arrive à avoir confiance en moi sans ça. Donc, ces trucs-là, il faut les travailler avant, en faisant des thérapies, en faisant des choses pour aller mieux, pour être plus en confiance en soi. Mais je me souviens plus de la question qui était à quel moment. Ah oui, le mot alcool.
À quel moment vous comprenez que c'est une addiction qu'il faut en sortir.
En fait, j'ai fait beaucoup de la fête dans mes années d'études à Nice. Et ça a été les années où c'était les plus
open
folles
bar.
De ma vie, open bar, on faisait la fête, c'était trop rigolo, je m'amusais, c'était génial.
Il faut dire, quand on est étudiant, c'est là, pour le coup, la pression sociale, c'est même pas qu'elle est énorme, c'est qu'elle est incontournable. Quand on est dans une école de commerce, on est obligé de participer.
La pression, elle était dans ma main à l'époque, donc je peux pas vous dire ce que c'était la pression sociale, parce que moi, à l'époque, c'était vraiment open bar, et on adorait ça, et c'était vraiment trop rigolo. Donc je peux pas dire ce que c'est de pas boire d'alcool quand on a 20 ans, et j'imagine que ça va être l'enfer. Mais moi, je fonçais vers les endroits où on pouvait picoler, parce que c'était mon mode de vie. Et là où je me suis aperçu que j'avais des problèmes d'alcool, c'est quand je suis arrivé à Paris, et où j'avais plusieurs entourages différents. J'avais des potes avec qui j'étais en mode full des gommes, on faisait la teuf, on allait à I Love Techno, on dansait comme des oufs, et le fait de reprendre un verre, c'était même pas une question, parce qu'on était en mode on boit. Et quand je faisais la fête avec d'autres groupes de potes, qui étaient beaucoup moins dans cette fête avec l'ivresse, je m'apercevais qu'eux, ils voulaient... moins boire que moi, et moi j'étais un peu frustré quand il voulait rentrer, et moi je me suis aperçu que quand je commençais à boire, j'avais du mal à m'arrêter, et je me suis aperçu de ça dans mes premières années de la vingtaine en arrivant à Paris, quand je comparais mes soirées entre mes potes méga tuffeurs, méga full addict ivresse, et mes autres potes qui ne peuvent boire que deux verres et être heureux, quoi.
Mais vous parlez beaucoup d'âge, ça compte, l'âge c'est différent de boire dans sa vingtaine et de boire dans sa trentaine.
Et ben en fait, moi non, c'est-à-dire que j'ai compris que toute ma vie, je devrais gérer ces problèmes-là, c'est-à-dire que si j'ai un coup dur dans la vie maintenant, l'alcool est dans mon mode de vie, je sais que je me servirai de l'alcool pour oublier mes soucis. Parce que moi, j'ai un profil qui est addictif, c'est-à-dire que moi, dès que je bois un verre, j'ai re-envie d'en boire, et ça, c'est dans mon cerveau, quoi. C'est genre, mon cerveau, il me dit j'en reveux, quoi. Et ça sera toute ma vie, et j'ai un modèle dans ma famille, qui est mon père, qui a des problèmes d'alcool depuis que je le connais, et donc j'avais un modèle de c'est bon, j'ai capté que j'étais comme lui, et je vois que lui, j'ai un modèle au-dessus de moi. Donc je savais que c'est pas une question d'âge, en fait, c'est une question d'addiction, et l'addiction, c'est toute la vie, quoi.
Le Dry January fait chaque année de plus en plus d'adeptes, mais pourtant, il n'est pas toujours bien vu, notamment quand on est un élu de la région champenoise. Quentin, lui, qui a lu la presse locale, nous raconte, juste après Stretch, « Why did you do it ?» sur Inter.
I've been thinking about what you have done to me. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. I know they never understand it, because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do that?
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière était à deux doigts cette année de se lancer pour purifier son corps, souillé par trop de déjeuners chez Blériot, dans l'expérience à la mode du jeûne intermittent, jusqu'à ce qu'il tombe sur une étude révélant les effets indésirables de cette pratique. Il nous raconte dans le Lacar News. Mais pour l'heure, on continue de zoomer sur le phénomène Dry January avec celui qui ne le fait plus depuis qu'il le fait tout le temps, Maxime Muscat, qui nous raconte sa nouvelle vie de sobriété heureuse dans son livre « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser », c'est aux éditions Robert Laffont. Est-ce que, Maxime, ce Dry January, c'est gadget à vos yeux, ou bien ça peut vraiment être l'occasion d'une prise de conscience?
Alors, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que pour moi, un mois, ça ne sert à rien pour apprendre à vivre autrement, mais je sais que c'est un moment qui est génial pour pouvoir se questionner sur son rapport à l'alcool, je pense que ouais, c'est une super idée de faire un mois pour voir. Apparemment, plus ça fait déjà du bien pour la santé en un mois. Bon, je sais pas, moi je sais pas trop donner les bonnes infos pour ça, mais pour le sommeil, pour le corps et tout.
Oui, ça a déjà un impact.
Voilà, ça a déjà un impact. Oui. Et juste quand on se questionne sur sa consommation d'alcool, le fait de tester un mois pour voir et pour réfléchir à sa consommation et son rythme de vie, pourquoi on fait des trucs, pourquoi on boit, etc. Je pense que c'est un super moment et que, comme tout le monde le fait, c'est un bon truc à faire, je crois.
Vous pensez que potentiellement on a tous un problème avec l'alcool?
Je pense qu'on a tous un problème d'alcool, ou qu'on a quelqu'un autour, enfin on a des gens autour de nous qui ont des problèmes d'alcool. Enfin, c'est pas, je pense quoi, c'est genre. Genre, c'est absurde de dire le contraire, quoi. Enfin, je sais pas, genre. Non, vous croyez pas?
C'est sûr, on pourrait même citer des exemples.
La question, c'est pas grave. C'est genre, on a tous des problèmes d'alcool, et pas forcément au même moment de sa vie. Mais c'est juste, moi, ce que j'espère, c'est que là, avec ce que je raconte dans le livre et ce que j'ai déjà fait avec ma vidéo et ce qui est en train de se passer avec tous les gens qui commencent à en parler, c'est de libérer la parole sur ce sujet-là, se rendre compte qu'on a des problèmes d'alcool, qu'on l'utilise, parce que c'est une drogue, c'est une addiction, et quand on va pas bien, on boit et puis ça va mieux, et on ne boit pas juste, enfin, moi j'aimerais bien boire juste du vin parce que je trouve ça délicieux et tout, mais non, moi dès que je bois un verre, après j'ai envie d'en boire plein, et il y a des gens qui changent de comportement quand ils boivent, et genre tout le monde a des problèmes d'alcool, quoi. Ou des gens qui ont des jeux, enfin voilà, pardon.
Sur ce sujet de l'alcool, Maxime, il y a une séquence qui a beaucoup fait parler, beaucoup fait réagir, c'était dans l'émission Quelle époque ? On l'écoute.
C'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses ? Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé.
J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer.
Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant.
Oui, c'est très français ça, de dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément.
Oh là là,
bien sûr.
Donc.
Mais quoi, je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc-là? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo. Ah bravo, c'est cool, t'as arrêté la coke.
C'est vrai,
génial.
C'est vrai,
en France, tu dis t'arrêtes de boire.
Artus, chez notre collègue Léa Salamé. Ça, c'est quand même symptomatique d'une, même si c'était sur le ton de la blague de la part de Léa, c'est quand même symptomatique d'une société française pour qui l'alcool, c'est tout simplement normal. Et ne pas prendre d'alcool, c'est un peu être chiant. C'est quand même... Est-ce que vous-même, avant, vous pensiez ça ?
Eh ben moi, j'avais trop peur d'être catégorisé comme j'ai commencé à parler de ce sujet sur ma vidéo YouTube, et c'était la pire angoisse de ma vie, c'est qu'on me dise maintenant il parle de sujets chiants, il est relou et tout. Donc et puis moi, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des problèmes d'addiction, j'avais honte d'en parler à cause de ce truc de j'avais peur du jugement des autres, quoi. Moi, j'espère que en racontant ce que je raconte dans le livre, j'espère que les gens qui réagissent comme ça, eh ben ils vont moins foutre la pression aux autres, quoi, parce qu'en fait si les gens qui se moquent, eh ben c'est juste qu'ils comprennent pas en fait, et il faut leur expliquer. Et genre moi j'espère vraiment que, et il y a des gens qui me font des remarques, et je comprends pourquoi ils font ces remarques là, mais je pense que juste qu'en expliquant à ces gens là pourquoi nous on prend ça mal, eh ben on va avancer, quoi. Et du coup j'ai bien tout raconté dans mon livre, j'espère, quoi.
Est-ce qu'il faut être prêt néanmoins à potentiellement perdre des amis de beuverie quand on décide d'être sobre? Ça vous est arrivé?
J'avais des amis que de beuverie, soit j'arrive à créer des nouveaux moments avec eux, mais effectivement je les vois moins, mais les vrais amis, ils sont là depuis, enfin ils sont encore là, moi, c'est surtout un truc par rapport, moi, comme j'ai eu des moments un peu durs dans ma vie où il a fallu que je remonte un petit peu la tête de l'eau, j'avais vraiment besoin d'un entourage bienveillant qui me tire vers le haut, et c'est surtout cet entourage-là que moi j'ai favorisé, et j'ai mis de côté des gens qui me poussaient à me tirer vers le bas, et ça c'est des entourages auxquels j'ai fait hyper attention. Et maintenant il y a des gens de ma vie que j'ai éloignés parce que c'est des gens qui avaient aussi des problèmes mais qui essaient pas de les régler, et moi comme j'essaie de régler les miens, en fait je pouvais pas rester avec des gens qui c'est pas de régler leurs problèmes, quoi. Parce qu'effectivement, quand on se retrouve, on picole et c'est génial, on oublie les soucis, mais en fait, tout, on se tire vers le bas l'un et l'autre, quoi. Mm-hmm. Et moi, j'ai essayé de régler mes problèmes. Et par exemple, Marie que j'ai rencontrée, c'est une des personnes qui est une des plus importantes de ma vie et qui est un de mes entourages qui fait que maintenant je vais mieux parce que c'est quelqu'un de bien qui m'a accompagné dans, quand moi j'allais pas bien. Et depuis que je la connais, je vais de mieux en mieux, quoi. Donc voilà, c'est l'entourage, c'est important et il faut bien choisir, quoi.
Vous écoutez France Inter, on s'aime tous. Il est 17h27. Ouais. T'es même pas notre père d'abord. Voilà ce que rétablent désormais en cœur les enfants de Cyril Lacarrière lorsqu'il les engueule. Mais... Cyril, oh, qui après lui avoir laissé 10 jours d'affilée au géo du Club Med de Punta Cana, ses enfants est obligé de leur rappeler que non, Juanito n'est pas leur papa. Bref, retour Juanito à Paris est difficile pour notre rédacteur en chef, mais qui ne devrait pas altérer la qualité de son Lacarrière News. Les trois infos qu'il ne fallait pas manquer. Et on démarre avec l'anniversaire du jour.
C'était le 6 janvier 1975.
Il allait chanter.
Ouais, cru, hein. Le tout premier jingle de TF1. J'essaie de me mettre en rythme avec le truc. Un jingle créé par Catherine Chaillet. Elle a d'ailleurs créé la toute première charte graphique de la chaîne. Et c'est l'occasion de lui rendre hommage.
Bien sûr.
Puisqu'elle vient de mourir juste avant les fêtes de Noël. Alors, hein, ça ne va pas gâcher la fête car TF1 fête aujourd'hui ses 50 ans. Voilà, un demi-siècle, et la chaîne se porte toujours bien. Elle ne domine plus comme avant, mais la télé a changé, il n'y a plus de concurrence, et surtout, les gens regardent autre chose que la téloche, YouTube, Netflix. Mais si les téléspectateurs vieillissent, ils ne lâchent pas leurs vieilles habitudes. C'est comme ça que TF1 reste encore et toujours la première chaîne de France, même si cet été, France 2 lui est passé devant grâce au carton des Jeux Olympiques. Le problème, quand on a 50 ans, c'est qu'on a tendance à plus regarder dans le rétro que devant soi.
Oh non, Cyril.
Or, c'est ça la grande question, ça sera quoi TF1 en 2075? On aura l'occasion d'en reparler.
Je sens que les questions que vous vous posez personnellement rejaillissent beaucoup dans le Lacarrière News.
Non, non, t'inquiète.
À l'approche de vos 50 ans. La nomination du jour, Cyril.
Eh bien, quand la religion se mélange avec la politique, c'est aujourd'hui que le Congrès américain certifie les votes en faveur de Donald Trump. Trump qui sera officiellement investi dans 2 semaines. Et qu'est-ce que fait le pape François pour fêter ça? Eh bien, il vient de nommer un nouvel archevêque à Washington, Robert McElroy. Un défenseur des migrants et surtout un homme très critique du premier mandat de Donald Trump. Il avait ouvertement appelé les catholiques américains à ne pas respecter les lois anti-immigration de l'époque et à faire barrage à ceux qui voulaient expulser des sans-papiers. Après la victoire de Trump en 2016, Robert McElroy avait parlé, je le cite, de la profonde maladie de l'âme de la vie politique américaine. C'est pas ça qui va faire dévier Trump de son programme, mais au moins, le pape François fait entendre sa position.
Et enfin, Cyril, le dilemme du jour.
C'est un dilemme qui vous concerne, mon bon Noël.
Mon Dieu.
Vous connaissez certainement le jeûne intermittent, c'est comme ça qu'on appelle de sauter un repas pour perdre du poids, par exemple. Ça permettrait aussi, paraît-il, de faire diminuer des risques de certaines maladies. Et c'est devenu une sorte de régime à la mode. Mais voilà, des chercheurs d'une université chinoise ont découvert une contrepartie. Ce jeûne empêcherait la repousse de cheveux, oula, voire même précipiterait la perte de cheveux. Alors que faire? Jeûne ou pas jeûne, calvitie ou pas calvitie, Mathieu, vous avez fait un double choix. Manger tout le temps et perdre vos cheveux. Bravo.
Quelle ordure. Mais je serai là, tes 50 ans, vieux débris. Merci, Cyril. Maxime, est-ce que ça vous manque la télé, on parlait de TF1.
Est-ce que ça me manque la télé? Pas trop, parce que... Enfin, moi, j'ai fait une quotidienne, et en fait, en quotidienne, j'avais un problème, c'est que, genre, dès que j'ai beaucoup de charge mentale, je suis à la limite, et mon cerveau, il aime pas trop ça, et genre, j'aimerais bien faire... Genre, la télé, ça pourrait me plaire, mais il faudrait que j'en fasse une fois de temps en temps, quoi. Ou même pas de l'hebdo, mais genre, je suis pas contre la télé, mais c'est juste, moi, le format quotidienne, en fait, il m'a un peu épuisé, et là, je vois que, là, à la sortie du livre, je sens que mon cerveau, il est un peu en mode sollicité de plein de trucs, etc. J'ai des demandes et tout. Et je retrouve un petit peu ce truc de médiatisation que j'avais à l'époque. Et je sens qu'il faut que ce soit une petite période. Et que là, je viens chez vous parce qu'il y a Marie, j'ai fait Brut ce matin. Mais laissez-moi tranquille après. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, acheter mon livre. Et puis voilà, quoi.
Dans sa France à lui, Quentin, direction à présent l'Est de la France.
Oui, c'est la une de l'Union qui a retenu mon attention ce matin. L'édition de Reims, terre de Champagne. On y voit 3 coupes, mais remplies d'eau claire. Avec ce titre, faut-il faire le Dry January? C'est carrément un dossier complet en pages 2 et 3, et ça ne s'invente pas, c'est le journaliste Jean-Marie Champagne qui signe l'article. Il nous rappelle le lancement en 2013 au Royaume-Uni de ce Dry January, les 40 000 morts aussi que cause l'alcool en France chaque année, les bienfaits de ce mois qui permet finalement de prendre du recul sur la place de l'alcool dans nos vies. Il nous présente 2 cavistes, Julie et Justine du comptoir des vignes, qui ont carrément été interpellés par leur clientèle et ont décidé d'ouvrir un rayon sans alcool en entrée de magasin qui a d'ailleurs été dévalisé en décembre. Le sans alcool est à la mode. Et l'an dernier, en France, 4,5 5 millions de personnes ont fait ce fameux Dry January. Mais Jean-Marie Champagne, le bien nommé, sous pseudo certainement, insiste sur un point important. Contrairement au mois sans tabac en novembre, l'État ne soutient pas officiellement cette opération. Et c'est là que ça devient intéressant, car le journal de l'Union a posé la question au président de la région du Grand Est, Franck Leroy, qui sur la photo n'a pas l'air d'être quelqu'un qui plaisante. Il pourrait jouer un méchant dans James Bond. Et Franck Leroy, il n'est pas fan de ce Dry January. C'est une campagne absurde, dit-il. Soit on est alcoolique et il faut pas attendre janvier pour se préoccuper de sa santé. Soit on boit normalement et on peut boire du vin toute l'année. Attaquons-nous plutôt au sucre, au gras, à la malbouffe et qui entraîne l'obésité et font le plus de morts. Bon, en 2019, Franck Leroy, alors maire, avait clairement carrément fait adopter un vœu d'opposition au Dry January de sa ville, Épernay, la capitale du Champagne, où, dit-on, il y a l'avenue souterraine la plus chère du monde, où des millions de bouteilles des plus grandes maisons vieillissent. Alors, est-ce un véritable anti-Dry January ou un petit lobby du Champagne? Il répond qu'en janvier, en plus c'est dommage, ce sont les vœux des moments de convivialité, de partage, et qu'en effet, ça nuit au secteur viticole. Demander de ne pas consommer pendant un mois alors que vous avez toute une économie derrière, c'est très grave, dit-il. On se tire une balle dans le pied. Alors on va quand même trinquer pour la bonne année et santé.
Merci Quentin. Maxime Muscat, c'est vrai quand même, en France, il y a toujours une bonne excuse pour boire un verre, j'ai l'impression. Il y a toujours une occasion. Ça ne s'arrête jamais, même en janvier apparemment, il faudrait boire.
Bah, surtout, même dans mon milieu, il y a des... Moi, effectivement, tout à l'heure, on parlait du fait que je travaille dans le divertissement et tout ça. Il y a toujours des occasions de boire du petit champagne gratuit et tout. Et moi, ça a été vraiment très, très, très... Un petit clin d'œil, j'ai vu maintenant.
Oui, voilà, la gratuité, moi, c'est ça qui...
Donc effectivement, c'est très, très dur parce qu'il y a des occasions tout le temps. Enfin, partout, tout le temps. Et moi, j'ai réussi à barrer ça en faisant... Je me suis pris un compteur de... sur mon téléphone, donc j'ai un compteur qui est là, que je montre à tout le monde, parce qu'effectivement, il y a tout le monde qui me dit « Ah bah tiens, là c'est mon anniversaire, bois un verre », enfin, c'est ce qu'on me disait au début quand j'ai arrêté. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai montré mon compteur et je disais « Je fais un défi d'un an, laissez-moi tranquille », et les gens, du coup, je leur disais « Voilà, mon compteur, il en est là, et c'est hors de question pour ton anniversaire de merde, je vais boire ta foule de champagne
à la main, tu vois,
parce que c'est pas suffisamment important pour moi, Marie, peut-être je le ferai, mais
uniquement pour Marie.
Mais voilà. Je te le demanderai pas.
Maxime Muscat, je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser, c'est chez Robert Laffont. Si vous aimez l'humour et les matelas de qualité, surtout restez avec nous, car la chronique de Marie Debreur arrive. Marie, que vous connaissez un peu, Maxime, puisque visiblement vous êtes rencontrés, je cite Marie, bourré en Thaïlande. C'était bien avant l'écriture de ce livre, évidemment. Hein. Au programme cet après-midi, Marie.
Je vais vous parler de la nouvelle génération des bébés qui naissent là en 2025, la génération bêta. Et sachez qu'il y a un journaliste de France Inter qui est allé enregistrer les premiers cris des premiers bébés dans les maternités le 1er janvier. Et on l'embrasse, ce journaliste. Voilà, on espère qu'il aura des piges pour cette nouvelle année.
La chronique de Marie, c'est juste après Jamie XX, Waited All Night sur Inter.
Hesitation. Don't wanna peek too soon. Why don't you let me follow the rhythm of you? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Could I be this close to you? The light, I waited all night. A smile to die for, something just like yours, yours, yours. I waited all night for the thrill unknown, the will of you won't. A dream to try for, hope that you'd like more, more, more. I waited all night for.
Oh,
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Qui dit la vérité? Qui ment? L'actrice Blake Lively a-t-elle vraiment été victime d'une entreprise de démolition sur Internet? Manon Mariani va faire le point sur cette sombre affaire dans sa veille sanitaire. Mais d'abord, je me tourne vers celle qui soigne nos zygomatiques et désormais aussi nos lombaires grâce à une collab matelas de toute beauté. Marie Debreuer, avant que vous vous lanciez dans votre chronique ou votre placement produit, je tenais à vous souhaiter une bonne année.
Bonne année! Ou comme j'aime à dire, bonne année! Hey, wow, camion, poète poète. Allez hop, ça commence sur les chapeaux de roue cette rentrée. Je suis en pleine forme. Ah, les bébés nés à partir du 1er janvier 2025 appartiennent à une nouvelle génération qui s'appelle la génération bêta, et ce jusqu'en 2039. Et les bébés qui naîtront après 2039, eux, s'appelleront les gros débiles de la fin du monde. Waouh, une faille spatio-temporelle! Mais cette première chronique de 2025 est déjà complètement loufoque, c'est dingue! Je suis Xerox 2000, je viens de 2035. Quoi? Mais vous venez du futur, mais vous avez quand même l'air d'une caricature directement sortie d'un film moisi des années 90. Tout à fait. Non, bon, en vrai, je fais semblant d'avoir une voix de robot, c'était pour la vanne. Ah ouais, l'humour en 2035, c'est pas ouf. Bon, j'ai trop de questions à te poser, là, Xerox 2000. Déjà, qui est le président des États-Unis? Bah, c'est une IA. AmeriCat, c'est un personnage de dessin animé avec une grosse tête de chat et la voix de Morgan Freeman. 78 millions hein, d'abonnés sur TikTok. Il a été élu en disant juste « Miaou, mec ». Miaou, mec? Mais tu confonds pas Morgan Freeman et Eddie Murphy, là? Ok, génération bêta, vous êtes juste raciste, en fait. Oh là 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 là, non mais vous, la génération Y, là, génération de relou, on peut plus rien dire, c'était mieux avant. Mais de quoi tu me parles? Tu viens du futur, c'est moi, avant! Ouais, c'est un bruit de paix, là, que vous venez d'entendre. C'est ma petite nouveauté 2025. Si la blague est pas assez marrante ou manque d'une chute, voilà, je mets un prout. Voilà, c'est ça la suite. Bon, Xerox, qu'est-ce qu'elle devient, Elisabeth Borne, en 2035? Elle a été empaillée. Quoi? Ouais. Et Madonna, elle était en pleine forme jusqu'en 2032. Elle avait même sorti un album de metal hardcore, Like a Sacrifice Virgin. Puis, elle a été empaillée. Mais quel enfer! Mais dis-moi, pourquoi t'as choisi de venir me parler à moi en 2024? Bah, parce que t'es ma star morte préférée. Attends, quoi? Tu te fous de ma gueule? Dans seulement 10 ans, je serai une star! Ouais, mais morte. M'en fous, raconte-moi ma carrière. Alors, t'as fait une ascension de ouf. 2026, tu joues ton premier spectacle, Marie fait ça de Breuer. Voilà, à guichet fermé, partout dans le monde. 2027, premier Molière, et tu deviens Égérie Heineken. 2029, ton biopic est produit aux US et pour jouer ton rôle, John Travolta. À la base, il voulait Marianne James, mais elle était déjà empaillée. 2030, tu fais un break pour te consacrer à tes nouvelles passions, le paddle et l'héroïne. Aïe, 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 aïe. Et je meurs à cause de l'héroïne comme une rockstar. Non, non, tu meurs à une fête en essayant de gober une poire en entier après l'avoir jetée en l'air. Oh là, sauvé par le gong, comme on dit. Bon, allez, 2025, j'arrête les légumineuses.
Merci Marie, et on vous souhaite quand même une longue vie. L'échéance paraît un peu proche.
Désolée pour les pets.
Ouais, on est clairement plus sur France Culture. Ouais. La blague d'entrée ne fonctionne plus. Votre ami Maxime Musca est avec nous pour son livre.
Non, je la connais pas.
Finalement, vous la connaissez pas si bien. Vous avez croisé en Thaïlande une fois, mais vite fait.
Oui.
Maxime, Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Pour vous aider à sortir de cette spirale de l'alcool, vous utilisez notamment une appli, c'est celle que vous venez de nous montrer.
Oui, moi c'est I Am Sober.
Qu'est-ce que I Am Sober?
Ouais, mais il y en a plein, mais tout le monde me demande. Alors, du coup, genre, je reçois 50 milliards de DM pour me demander c'est
qu'est-ce
quoi mon application.
Fait, elle montre juste le nombre
de
jours sobres.
Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Moi, je ne l'utilise vraiment que pour avoir mon compteur qui évolue à la seconde près. Donc là, je suis à 3 ans, 10 mois, 18 jours, 23 heures, 28 minutes, 44 secondes, 45 secondes. Il y a des trucs de motivation aussi. Non, mais en vrai, c'est bien pour... En fait, après, quand il y a ça, on n'a pas envie que le compteur il diminue, quoi.
Mais c'est une autre forme d'addiction.
Pardon ?
C'est une autre forme d'addiction.
Mais n'importe quoi, qu'est-ce que je préfère cette addiction-là ? Qu'est-ce qui m'embête celui-ci, là ? Mais ouais, mais moi je suis addict à la glace. Maintenant, tous les soirs, je me dégomme une énorme glace, mais que personne vienne m'emmerder avec mon addiction à la glace. Quoi. Bah ouais, c'est une addiction, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais les gars, là.
C'est pas une bonne question. Est-ce que ça s'est, je sais pas, vous avez ressenti un manque quelque part ailleurs que l'alcool ?
J'ai ressenti. Bah en fait non, c'est juste je comble l'ennui parce qu'en vrai, ce que ah bah tiens, on a touché un point sensible.
Ouais, très sensible.
Bah ouais, je crois le vrai truc c'est que l'alcool ça permet de moins s'ennuyer hyper vite quoi. Donc là, il y a du travail à faire pour trouver des trucs à faire dans sa vie pour.
Et vous avez trouvé quoi vous?
Bah là, je viens d'écrire un putain de bouquin.
Ouais. J'ai un
podcast, je fais de l'escalade, je vais faire du stand-up. Voilà. Il y a aussi un truc de genre maintenant quand je ressors avec les gens, j'accepte de partir un peu plus tôt. C'est-à-dire que voilà donc. C'est juste, j'essaie de réfléchir à tous les moments que j'aime bien dans la vie et juste, bah, il faut que j'apprenne à vivre sans alcool. Je suis addict et je suis relou quand j'ai bu et voilà, donc j'ai pas le choix quoi. Donc,
Mais que vous y pensez encore au quotidien?
Oui. Non. Bah, j'y ai repensé là à la sortie du livre parce que j'ai vu mon cerveau en mode full sur sollicitation et, ouais. Et je vois que ça bouillonne et je suis en mode ah, j'aime pas ça. Et là, je me dis. Putain, à l'époque, je prenais une bière, quoi.
Ouais.
Et ça me calmait tout de suite. Donc vraiment, quand je me mets dans des situations de con, là, pourquoi je sors un livre pour me remettre dans cette situation? Je suis débile aussi. Mais voilà, en vrai, si je me mets en mode calme dans la vie, je ressens pas le bon. Et puis même si c'est un besoin que je ressens, j'y retournerai jamais. Je sais qu'il faut pas que je boive un verre. Mais c'est juste mon cerveau, je sais que ça le calme tout de suite, quoi.
Pour donner envie aux gens d'arrêter l'alcool, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des, je sais pas, de ce que vous avez ressenti assez vite? Quand vous avez arrêté de boire, est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce que se sent plus vif? Est-ce que moi, l'humeur est meilleure?
Le truc vraiment magique, c'est quand je vais en festoche, que je fais la teuf avec tout le monde, et que je vais me coucher un tout petit peu plus tôt que les autres, et que le lendemain, je me réveille, ouais. Et que je vois les gens fracassos des Gommelandes, et qui sont trop mal, et que moi, je suis en mode, oh, je vais trop bien, il est 7h du matin, et j'ai dansé, j'ai fait la même chose que vous, et vous êtes dans, vous voulez un Doliprane? Allez, ciao! Et voilà, c'est ça mon truc préféré, en fait.
Ça fait deux fois, Maxime Muscat, que vous dites, je pars plus tôt en soirée.
Oui.
Vous sentez un décalage arriver, et vous dites dans le livre, vous parlez des shots au tabasco, pour rester dans la convivialité.
C'est quoi ça?
Ça doit être horrible, ça.
Mais bon, c'est horrible, c'est trop rigolo. En fait, c'est juste qu'il y a plusieurs moments de convivialité dont on est coupé logiquement quand on boit plus d'alcool, et notamment ce truc de shot. C'est le premier anniversaire que j'ai fait de Julien Méniel, qui fait un dry January en ce moment, bravo à lui. Et en fait, à son anniversaire, ils ont pris une tournée de shot, et j'étais en mode ah merde, putain, je vais plus être avec eux là à ce moment-là, il faut que je trouve une astuce. Et mon astuce a été de demander un shot d'eau tabasco. Et comme ça, j'étais avec eux pendant le moment du shot. Et du coup, j'étais pas en mode solito pendant qu'eux, ils rigolaient, quoi. Voilà, c'est juste des petites astuces pour être avec eux.
Quentin en parlait tout à l'heure, mais les bières et les vins sans alcool, c'est bien ?
C'est une bonne idée.
Bah, ça dépend. Enfin, moi, j'adore les bières sans alcool. Il y a un truc au tout début, je pouvais pas prendre des hard drinks désalcoolisés parce que j'avais peur que ça me rappelle l'ivresse.
Oui.
Maintenant, j'y arrive. J'aime bien le gin désalcoolisé, par exemple. Mais genre.
Ça existe ?
Ouais, il y a mille trucs maintenant. Franchement, il y a le milieu du sans alcool en France, c'est celui qui se développe le plus en Europe, paraît-il. C'est dans Le Monde que j'ai entendu ça. Mais donc, il y a de plus en plus de trucs. Moi, j'aime bien. Il y a des petites IPA qui sont trop bonnes sans alcool. Je sais qu'il y a du kombucha. Et vraiment, je crois qu'il y a mille trucs qui sont en train de se développer. Moi, quand j'ai commencé l'arrêt de l'alcool, je prenais du pop maté, du club maté. C'est des trucs qui ressemblent un peu à de la bière et c'est un peu caféiné. Et donc, en plus, il y a un truc aussi de genre pour tenir dans la soirée, d'avoir un peu de caféine et tout. Parce qu'effectivement, les gens, ils trichent avec l'alcool. Mais moi, au bout d'un moment, je suis fatigué. C'est aussi pour ça que je rentre plus tôt que les autres. Parce qu'au bout d'un moment, moi, j'ai fait ma soirée, j'ai dansé. Mais quand j'ai dansé 2 heures, flemme de continuer jusqu'à 5 du mat, quoi. Mais j'ai dansé, j'ai kiffé ma soirée.
Vous écoutez France Inter, il est tôt encore, il est 17h45. L'heure de votre veille sanitaire, Manon, pour cette première de 2025, vous revenez sur une histoire qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux.
Est-ce que Blake Lively est une menteuse? Justin Baldoni est-il un manipulateur? Ces deux noms ne vous disent rien et pourtant, ils sont au cœur d'une histoire qui divise les réseaux depuis la parution d'un article du New York Times la semaine dernière. On y apprend que l'actrice Blake Lively a déposé plainte contre l'acteur Justin Baldoni qu'elle accuse de harcèlement sexuel et d'avoir orchestré une campagne sur les réseaux sociaux pour la détruire. Pour comprendre de quoi il s'agit, je vous recontextualise l'histoire et ses protagonistes, c'est dur à dire. D'un côté, il y a donc Blake Lively, une actrice américaine très connue pour son rôle dans la série Gossip Girl, elle a aussi joué dans un Woody Allen, elle est mariée à l'acteur Ryan Reynolds qui joue notamment dans Deadpool, et c'est la meilleure amie de Taylor Swift. Bref, elle fait partie de la haute sphère d'Hollywood. De l'autre, il y a l'acteur Justin Baldoni, beaucoup moins connu, il a joué dans la série Jane the Virgin, mais on peut pas dire que ça lui ait créé une très grande renommée. Les deux acteurs ont joué les rôles principaux du film It End With Is Us, sorti cet été. Baldoni l'a aussi réalisé. Le film est l'adaptation du roman à succès du même nom qui raconte l'histoire d'une femme victime de violences conjugales. Le livre a notamment été popularisé par TikTok car il fait partie du genre dark romance. On avait fait une émission, ces romans interdits, glamourisés. Bref, sur le papier, le film avait tout pour marcher, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu.
Et pourquoi ça ?
Car pendant la promotion du film, les deux acteurs ne se sont jamais affichés ensemble. Et ça a commencé à faire jaser sur les réseaux qui ont ciblé Blake Lively.
I used to really like Blake Lively, but the more I'd be researching and hearing, Blake is actually the problem.
We are seeing the downfall of Blake Lively before our very eyes.
Blake Lively and her companies are under a lot of controversy.
Des milliers de vidéos l'ont accusé de ne jamais parler des victimes de violences conjugales alors que c'est tout le sujet du film et surtout d'être une femme antipathique. Ce qui est assez fou, c'est que la plupart de ces vidéos viennent de femmes. Résultat, la réputation de Blake Lively en a pris un coup alors que de l'autre côté, Justin Baldoni s'est affiché comme l'allié des femmes victimes de violences conjugales. Sauf que la vérité semble être tout autre selon l'enquête du New York Times. Blake Lively raconte notamment que Justin Baldoni aurait improvisé une scène de baiser sans son consentement. L'ambiance serait devenue très tendue sur le tournage et c'est pour éviter des représailles publiques que Baldoni a embauché des spécialistes de la gestion de crise pour nuire à Blake Lively sur les réseaux.
Mais c'est qui ces spécialistes ?
Eh bien, c'est pas n'importe qui puisqu'il a fait appel à Melissa Nathan, la même femme qui a travaillé pour Johnny Depp au moment de son procès contre son ex-femme Amber Heard. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, l'actrice s'est fait détruire sur les réseaux sociaux. Des milliers de vidéos l'ont critiquée, moquée, caricaturée, alors que dans le même temps, Johnny Depp était porté au nu. Exactement la même situation vécue par Blake Lively, preuve que c'est un système très rodé. Ces spécialistes de crise font appel à des influenceurs pour dénigrer ses personnalités. Ils créent des hashtags avec des robots qui les poussent, murmurent des rumeurs à la presse people. Et la majorité du temps, ce sont des femmes qui en sont victimes. Amber Heard a d'ailleurs apporté son soutien à Blake Lively en disant avoir vécu la même chose et que ça l'avait anéanti.
Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Eh bien, Justin Baldoni et 10 autres personnes, dont Melissa Nathan et le producteur du film, ont porté plainte contre le New York Times. Ils réclament 250 millions de dollars pour diffamation, atteinte à la vie privée et divulgation de fausses informations. Il a aussi porté plainte contre Blake Lively. Alors, cette histoire sera jugée au tribunal, mais elle révèle comme il est facile d'être manipulé par les réseaux, que même quand on est féministe, on peut en oublier notre sororité et enfoncer une autre femme au prétexte d'arguments pas vérifiés. Moi-même, j'ai fait une chronique où je remettais en question le comportement de Blake Lively pendant la promo du film. Évidemment, ses campagnes sont bien faites et presque impossibles à détecter, mais il faut redoubler de vigilance. Ce n'est pas parce qu'une femme est connue que ça ne l'atteint pas et qu'on peut la cyberharceler. Amber Heard vit par exemple aujourd'hui sous une nouvelle identité en Espagne, tellement ce qui lui est arrivé a été violent. Johnny Depp, de son côté, est toujours égérie Dior et pourrait faire son retour dans Pirates des Caraïbes, deux salles, deux ambiances.
Effectivement, merci Manon. Maxime Muscat, on parlait de célébrités à l'instant. Est-ce que vous avez des exemples de célébrités, à part vous, qui ont arrêté l'alcool et qui sont marquantes dans la société? Il y a peu, c'est finalement assez peu médiatisé.
C'est un des trucs. En fait, moi, il y a quelques personnes qui m'ont marqué quand ils parlaient de ça, je crois. Enfin, je me souviens plus qu'elle. Il faudrait que je lise, mais genre, je sais plus, c'est peut-être Pacino ou genre. Parfois, il y a des acteurs ou des actrices qui parlent et à chaque fois que j'entends j'ai arrêté l'alcool depuis tant d'années, ça me marque de ouf. Et en fait, ce que j'explique dans le livre, c'est que ces gens-là qui parlaient du fait qu'ils avaient des problèmes d'alcool et qui ont arrêté et qui continuent à avoir une carrière et une vie et tout, c'était vraiment le truc qui me disait, bon, là, pour l'instant, j'arrive pas à sortir de mes problèmes d'alcool, mais je sais que c'est une période et je vois qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là et qui s'en sont sortis et tout. Et ça, c'était un petit message, le message d'espoir dont j'avais besoin pour me dire, bon, là, j'arrive pas, mais c'est une période et tu vas peut-être t'en sortir. Et c'est ce que je fais aussi avec ce livre. Et c'est pour ça que moi, je prends la parole parce que j'ai une chaîne YouTube où je peux faire, où j'ai une voix qui porte. Dans le livre, je dis, j'ai le super pouvoir d'avoir une voix qui porte. Et donc, comme moi, j'ai eu des problèmes d'alcool et que j'ai un père qui a des problèmes d'alcool, c'est un sujet que j'étais obligé de traiter, quoi. Mmh. Et du coup, il fallait que je dise aux gens, regardez, c'est possible parce qu'il y a d'autres gens avant qui l'ont fait avant moi et qui m'ont aidé à m'en sortir quand j'allais pas bien, quoi.
Je rappelle le livre « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser », c'est chez Robert Laffont. À l'heure de l'accueillir, je dois confesser que me reviennent à l'esprit de troublantes photos de lui qu'il a postées dans son bain moussant et qu'Instagram a choisi de ne pas censurer alors que la mousse était quand même très transparente. Bonjour Marouane Ben Lazar.
Bonjour, mais c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à censurer, vous inquiétez pas, pour si ça, ce n'est des abdos saillants.
Ah, des abdos saillants, alors excuse-moi. La chronique de Marouane Ben Lazar, c'est juste après Astéréotypie. Je ris pour autre chose sur Inter.
J'ai des aéroports à l'intérieur de moi. Je veux avoir du respect vis-à-vis des avions. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils pensent que je me moque d'eux. Je veux prendre soin de vous, les avions. Vous faire sortir de moi pour prendre soin de vous. Vous manipuler doucement. Ne pas claquer la porte trop fort. J'ai peur de vous avaler. Vous êtes le symbole du voyage. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Olivier, c'est vrai que mon père va te vendre notre appartement, et qu'il me répond, oui c'est vrai. D'ailleurs, je ne suis pas content que tu aies fait des trous dans le mur. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Thomas qu'on passera toute notre vie dans la rue et qu'on dormira sur sa veste et qu'on mangera les feuilles des arbres pour le petit déjeuner par terre dans la rue. Ce sera mieux que de manger le petit déjeuner à l'hôtel. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Comme je tiens à vous et que je vous aime beaucoup, je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Jamais je me moquerai de vous, je ris pour autre chose. Je tiens à vous, je vous aime beaucoup. J'appelle mon père Ryan et que je lui dis qu'on est tous les deux des enfants et qu'on s'amuse pendant que les parents ne sont pas là. Ce qui me fait rire, c'est Arthur qui imite la mère américaine qui rentre à la maison.
Honey, I'm home and I have beef jerky for you.
Ça me fait rire de faire dire des conneries aux gens. Connaissez-vous le patami des enfants? La personne répète machinalement parce qu'elle ne comprend pas. Ça me met dans un état d'excitation. Connaissez-vous le patin informatique, la confiance? Connaissez-vous la honte? Connaissez-vous la coulgourine? Pensez-vous que ma cousine en Angleterre a beaucoup de caractère? Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
La toile c'est de l'eau. La toile c'est de l'eau. La toile c'est de l'eau.
Qui de mieux que Merwan Ben Lazar, qui est avec nous pour parler du Dry January. Il ne boit pas d'alcool, il était donc bien sobre sur son deux roues quand il s'est vautré sur la place publique. Pas d'alcool, juste de l'incompétence. Donc, comment va notre pilote du dimanche?
Eh ben ça allait bien jusqu'à... C'est moi qui l'ai écrit, mais elle m'a quand même fait mal.
C'est marrant parce que tu ris beaucoup au lancement que t'as toi-même écrit.
Ben, je m'adore, je me trouve génial. Mais allez, c'est parti, le Dry January. Bonjour tout le monde, quel plaisir d'être là. Bonjour Maxime. Je vous ai écouté et tout avant d'écrire la chronique parce que moi, j'y connais rien à l'alcool. J'ai jamais bu et vous avez dit la France est malade. Et en vrai, un malade, ça a des symptômes et la France est malade autour de l'alcool. Et en fait, si tu regardes, il y a des petits marqueurs quand même. Par exemple, la relation que les Français entretiennent avec l'alcool, elle est intéressante. Par exemple, en France, quand t'arrêtes de boire, t'en fais un livre. Je sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. Et t'es invité à la radio. C'est énorme, gros. C'est énorme. Et on en parle. Et tout. Alors, on en parle avec Maxime Muscat. Je peux vous appeler Max?
Ah ouais,
mais... ouais, sans ça. Et vous avez complètement arrêté l'alcool pendant un an. Et suite à ça, vous avez décidé de vous y tenir pour toujours. Ça fait 3 ans. Cocasse que de parler que pour parler de s'interdire l'alcool, la radio a envoyé le gars du bâtiment qui ressemble plus à Saddam Hussein. C'est super, arrêtez l'alcool, c'est très bien, c'est un beau premier pas, mais maintenant il faut aller au bout de cette démarche et accepter l'islam dans son entièreté. Pour le français moyen, dans votre bouche, se priver d'alcool, c'est super, c'est bon pour la santé. Dans ma bouche, c'est un appel au djihad. C'est le docteur Jimmy Mohamed qui dit oh, doucement sur le jambon et le rosé. En vrai, il a raison, mais là, c'est Jimmy ou Mohamed qui me parle. Non, mais soyez-vous. Malheureusement, vous ne serez jamais 100% impartial, docteur, ou devrais-je dire chir. C'est une vraie discussion qui a existé. C'était des propos tenus par Mathieu Noël que je viens de citer. Si, si, il a ensuite crié c'est pas du poison. Le vrai poison, c'est l'insécurité. L'alcool, non, mais les allocs, c'est oui, hein. Ça, c'était quand même des propos graves. Je sais pas s'il vous a montré les photos de lui enfant. Il était scout en Bavière. Il est revenu changé. Mais J'ai jamais bu une goutte d'alcool et vous avez trop de chance d'être tombé sur moi en vrai, Maxime, parce que les autres chroniqueurs, c'est des épaves. La vérité. Hier, j'ai fait la première partie de qui ? Benjamin Tranier. Nouveau tatouage. S-U-Z-E. Suze sur le mollet. Il t'aurait pas considéré. Qui ? Yann Marguet. C'est un Suisse, Yann Marguet. Ils ont un plat, une casserole, du fromage et du vin. C'est un plat pour eux. Voilà, ils mangent ça, frère. Il y a d'autres émissions. Cominec. Méfiez-vous de Cominec. Tu parles de Dry Joigneur et à Cominec. Il fait la chronique en t'attrapant par le col. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après, faut le comprendre. Il est composé à 67% de mojito. Et tenir un Dry Joigneur avec Cominec dans la même pièce, c'est niqué. Il pète, tu respires, t'es à 1,4 g, il a gagné. Bref. En vrai, pour être honnête, j'écrivais ça et je me disais, en vrai, d'habitude, c'est moi qui suis une merde avec les invités. C'est moi qui suis odieux à chaque fois.
Oui.
Et, dis pas oui non plus, mais là, je vous jure, Maxime, j'ai rien à dire. Je me suis rendu compte pendant la chronique que j'avais rien à dire. Je suis admiratif parce que vous avez vu une meilleure version possible de vous-même et c'était difficile, il y avait des obstacles visibles, mais vous y êtes allé et vous y avez réussi. Et c'est un truc que moi, peut-être je suis une crise de la trentaine ou quoi, mais j'ai essayé en ce moment et j'y arrive pas. Donc comme moi j'y arrive pas et vous avez réussi, j'étais admiratif, j'ai que de l'admiration, j'ai rien. Après, il y a cette question quand même de jusqu'où elle va aller, cette calvitie, pour qu'il accepte de se couper les cheveux. Mais non, je vous permets pas. Mais c'est secondaire. Il est dur, cet équilibre. J'ai prouvé que j'étais une merde et que j'y arrivais pas. Mais il est dur, cet équilibre, d'essayer d'être une meilleure personne sans se culpabiliser en permanence. On est addict à tout. Tous, et tout est dangereux pour nous. Tu scrolles sur ton téléphone sans pouvoir t'arrêter jusqu'à ce que ton corps il te dise j'ai soif. Donc tu te lèves pour ouvrir le frigo, pour trouver ta bouteille d'eau. Mais dans l'eau, il y a du microplastique. Et dans le frigo, il y a du sucre partout. Frère, le sucre, il te rend accro et te tue à petit feu. D'ailleurs, c'est pour ça que tu prends ton café sans sucre. Mais dans le café, il y a de la caféine. Ça aussi, c'est une drogue. Ça aussi, c'est pas bon. Et la viande, ça tue la planète. Et les jeux vidéo, c'est des développeurs exploités, privés de vie sociale. Mais c'est pas grave. Je vais faire un footing. Comme ça, j'irai faire chier personne. Mais mes baskets, elles sont faites par des Chinois dans des camps à qui on n'a rien demandé. Souvent, c'est des enfants. J'arrête là. Sinon, en vrai, on va retourner se mettre une race tous les deux avant la fin de l'émission. Mais vous m'avez inspiré, c'est ça que je voulais dire. Pour finir, vous m'avez inspiré. On a tous, moi j'ai jamais bu d'alcool, mais on a tous notre dry joignery de quelque chose. Moi ce qui me tue, c'est la procrastination. Je vais être honnête, cette chronique là, le thème, on me l'a envoyé il y a 3 semaines, j'ai commencé à l'écrire ce midi. Et là vous vous dites genre, oh, quel génie. Ou tout s'explique. Il y a 2 écoles, mais le rire était gênant. Mais en tout cas, ce que j'essaie de dire là, et je vais m'y tenir, oui. La procrastination, c'est fini. C'est derrière moi. C'est pas mon dry joint, enfin, je vais pas le faire en janvier parce que ça a déjà commencé, mais février je m'y colle.
Ah oui, c'est bien. Merci beaucoup Merwan pour cette chronique de 17 minutes et on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Merci Maxime Musca, je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser, c'est votre livre paru chez Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci, offrez-le à tous vos collègues apparemment.
Ah bah je vais l'offrir à tous, mais ils en ont tous besoin. Merci à tous, Marie, Manon, Quentin, Cyril, El Loco de la Tequila comme on l'appelait en République Dominicaine. Merci également à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission sans forcément aller jusqu'à prêter assistance à un camarade qui se casse la jambe devant eux, mais saluons-les quand même. Non. Florence Dumanac, Alexis Alacour, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Gérald Darnaud et notre nouvelle stagiaire Lola Auvert. À la réalisation, c'était le retour du fabuleux Étienne Bertin, à la technique Rémi Sistiaga, et on se retrouve demain à 16h, évidemment. Zoom, zoom, zen.